France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Les journées européennes du patrimoine approchent à grands pas. Pour l'occasion, on rencontre une scientifique au chevet des œuvres d'art, Elisabeth Raveau, est notre invitée. Médecin de formation depuis 30 ans, Elisabeth Raveau utilise les techniques de l'imagerie médicale au service de l'histoire de l'art. Deux domaines à première vue très éloignés, mais qui partagent en réalité de nombreux points communs. Radiographie aux rayons X, infrarouge, ultraviolet et fluorescence, elle réoriente ses outils pour restaurer et étudier les chefs-d'œuvre du Louvre et des musées de France. La chercheuse a déjà dressé le bilan de santé des peintures des Léonard de Vinci, diagnostiqué des Titiens et prescrit des traitements pour des Delacroix. Comment la médecine radiodiagnostique révolutionne-t-elle notre façon de voir les tableaux? Elisabeth Raveau, dans la clinique des œuvres d'art. Elisabeth Raveau, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes médecin radiologue de formation, aujourd'hui ingénieur de recherche au département du C2RMF, le centre de recherche et de restauration des musées de France dans le groupe Peinture. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre fil podcast de l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreux liens, de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment la radiographie permet-elle d'analyser en profondeur un tableau? Quelles informations ces examens nous apportent-ils? Et quelles sont vos techniques pour dévoiler les secrets des œuvres du passé? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Elisabeth Raveau, quelle a été la dernière œuvre que vous avez eue entre les mains?
Alors, la dernière œuvre sur laquelle j'ai travaillé encore hier, c'est un tableau de Guido Reni, Hercule et l'Hydre de Lerne, qui fait partie d'une série sur les travaux d'Hercule. Le tableau est conservé au Louvre. Il va être bientôt restauré et nous faisons une étude préalable à la restauration. C'est-à-dire nous documentons par différentes techniques d'imagerie. Alors, il y a la radio parce que c'est ma technique un petit peu d'origine, mais plein d'autres techniques seront mises en œuvre aussi. L'idée, c'est de savoir d'une part comment l'œuvre a été réalisée, quels sont les matériaux originaux qui ont permis la réalisation du tableau. Et l'autre volet, c'est quel est son état de conservation, quelles sont des modifications qui auraient eu lieu après la fin de la réalisation du tableau. Ça peut être des modifications de format, ça peut être des rentoilages, des transpositions. Il y a beaucoup d'interventions qui peuvent venir modifier les œuvres, de manière à faire un dossier qui va nourrir la réflexion des restaurateurs qui vont, eux, traiter l'œuvre. Nous, on est plus sur la partie diagnostic et eux sur la partie traitement.
Diagnostic, en effet, vous êtes médecin radiologue de formation pour soigner des patients en chair et en os. Et il y a 30 ans, vous opériez un virage. Comment est-ce qu'on bifurque de la médecine vers l'analyse d'œuvre?
Alors pour moi, ça a été un concours de circonstances et peut-être une occasion que j'ai saisie qui s'est présentée à moi. À l'époque, je suis ancienne interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique, j'étais assistant à l'hôpital Tenon, mais avec aussi l'envie de faire des études d'histoire de l'art en parallèle, puisque j'ai toujours eu le goût pour ça. Et à un moment donné du cursus, il fallait que je fasse un stage. Et en fait, ce stage, je l'ai fait au laboratoire. À l'époque, il n'avait pas encore fusionné avec les ateliers de restauration, donc on appelait ça le laboratoire. Et c'est à l'issue de ce stage que le directeur m'a proposé de rester si ça m'intéressait. Donc j'étais un petit peu surprise parce que c'était pas du tout le propos pour moi. Et puis, ce stage a été l'occasion pour moi de me rendre compte que, en tout cas, la discipline que je maîtrisais le mieux, la radiographie, me paraissait très largement sous-exploitée. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des images assez immédiatement perceptible qui était effectivement prise en compte, mais que l'image contenait beaucoup d'autres éléments dont on ne parlait pas. Et c'est ce constat qui m'a poussée à accepter ce changement d'orientation, en me disant que peut-être mon bagage médical pourrait peut-être être profitable au patrimoine en essayant de compléter cette observation des images.
Ce constat, c'est quelque chose que vous avez fait également. Je lisais dans une interview, en lisant La vie mystérieuse des chefs-d'œuvre de Madeleine Ours. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous a frappé justement dans cette lecture?
Oui, tout à fait. J'avais lu pratiquement tous les ouvrages de Madeleine Ours avant de venir. Et c'est vrai que je crois que le grand public, est intéressé par ces histoires de création, de modification, toutes ces histoires liées au patrimoine. Au-delà de juste les regarder, on peut aussi avoir toute cette épaisseur donnée par des histoires et toutes ces données. Donc, effectivement, oui, j'étais une adepte de toute la littérature de Madeleine Ours qui a fait beaucoup pour médiatiser, en fait, ces techniques.
Alors à première vue, comme je le disais dans mon introduction, médecine et histoire de l'art, ça semble très différent, mais finalement, il y a de nombreux points communs. Quels sont-ils, Elisabeth Ravot ?
Alors, ce dont je me suis aperçue progressivement, c'est que finalement, quand on s'occupe d'un patient, on va l'interroger. Donc on va l'interroger sur sa maladie, ce qu'on appelle l'histoire de la maladie, les antécédents. Pour les peintures, c'est pareil. On a des antécédents, c'est-à-dire on peut savoir, ça, tout dépend, c'est pas vrai à chaque fois, mais la date de la commande, l'artiste, quel était le commanditaire, pour quel lieu. Donc, c'est quelque chose que je mets en relation, c'est une partie documentaire. Après, on a l'examen clinique du patient. Donc, voilà, on lui fait faire des tests, etc. On l'examine. Et nous, on examine aussi un peu sous toutes les coutures nos tableaux. Après, on demande des examens complémentaires pour le patient, mais on peut en demander aussi pour les tableaux. Et finalement, tout ça va déboucher sur un diagnostic et peut-être un traitement. Et pour les tableaux, un diagnostic et aussi possiblement une restauration. Donc, je trouve qu'il y a énormément de parallèles. Et finalement, le point commun, ça a été plus la méthode que le sujet lui-même. C'est-à-dire qu'il a fallu que je réapprenne mon anatomie, qui n'était plus l'anatomie humaine, mais celle des tableaux, tous les matériaux, des choses que j'ignorais en arrivant. Mais voilà, la méthode était la même, en fait. Donc j'ai été assez à l'aise assez rapidement.
En tout cas, en effet, ce parallèle, ce processus commun entre domaine médical et art, c'est aussi quelque chose qu'on entend dans notre archive du jour. Nous sommes en 1976.
Début avril, à Amsterdam, les visiteurs du Rijksmuseum pourront contempler à nouveau la ronde de nuit. Le fameux tableau de Rembrandt avait été lardé de 12 coups de couteau par un déséquilibré. Depuis, la restauration a été entreprise à la vue d'ailleurs du public, mais derrière le vitrage d'une chambre spéciale, climatisée, où notre correspondant permanent, Quentin Dickinson, a pu pénétrer.
Willem Heijmans, vous dirigez l'équipe du Rijksmuseum qui restaure actuellement la ronde de nuit. On croyait le chef-d'œuvre endommagé à tout jamais, restera-t-il des traces ?
Non, pour le public, le tableau sera comme avant l'attaque. Seules les photographies au rayon X permettront de dessouler les endroits où la toile a été abîmée.
Quel procédé a-t-on utilisé pour la restauration de la ronde de nuit ?
Le canevas est reconstitué à l'aide de découpes de fibres mélangées à la cire et la résine.
Mais la partie la plus délicate reste à faire.
Nous avons déjà enlevé la totalité du vernis de protection que nous avions mis en 1947. Nous avons en partie repeint les endroits endommagés, mais ceci nous prend plus de temps que prévu, car nous ne pouvons le faire qu'à la lumière du jour.
Combien de temps vous faudra-t-il encore pour compléter la restauration ?
Il faut attendre que le vernis de surface sèche en profondeur. C'est pourquoi la ronde nuit restera encore plusieurs mois dans ce caisson spécialement climatisé.
Voilà un extrait d'Interactualité sur France Inter en 1976. Elisabeth Ravot, on entend bien là les conditions très spéciales pour la restauration, la réparation du chef-d'œuvre. Est-ce que vos conditions de travail sont similaires ? Est-ce que cette archive y fait écho ?
Oui, tout à fait. Le centre donc qui combine à la fois le laboratoire et les ateliers de restauration, qui sont situés dans le pavillon de Flore d'une part et dans les petites écuries du château de Versailles. On a deux sites dans lesquels les tableaux sont restaurés. Et l'idée, c'est de vraiment constituer un centre où il y a une proximité entre restaurateurs, scientifiques et puis Pour le Louvre, ce sont des voisins. Pour les autres, il faut qu'ils se déplacent un petit peu. Mais les conservateurs responsables des œuvres qui viennent aussi. Donc, c'est une triade, en fait, très importante de proximité entre conservateurs, historiens d'art, restaurateurs et scientifiques. Et l'interdisciplinarité est un élément essentiel pour aller le plus loin possible dans une bonne compréhension. Et qui dit bonne compréhension dit après bon traitement.
Oui, c'est un peu un triangle magique, ce que
voilà,
vous décrivez.
Voilà, exactement.
Mais alors, comment, là où sont examinés les tableaux des collections nationales, c'est donc dans, au C2-RMF, le laboratoire de pointe des musées de France. À quoi ça ressemble? Quel est le protocole, si vous pouvez nous donner, à nous représenter ce lieu qui est fermé au public?
Alors, il est quand même, on peut quand même le visiter pour certaines journées du patrimoine.
Très bien.
Donc, c'est possible de temps en temps, mais c'est pas tout forcément tous les ans. C'est un lieu qui a été construit en même temps que le Grand Louvre, avec la pyramide de paille, et qui est en sous-sol du terre-plein des jardins des Tuileries. Mais avec un grand puits de jour qui permet d'avoir une lumière naturelle jusqu'au troisième niveau. Il y a un étage qui est réservé le plus bas à tous les laboratoires, là où se trouvent les machines, l'accélérateur de particules, les pièces de radio et toute une batterie d'examens avec les studios photos. On a une salle d'examen avec un microscope que j'utilise beaucoup. Tout est un petit peu concentré comme ça dans ce lieu qui bénéficie d'une architecture très moderne où les architectes de l'époque ont réussi la prouesse d'en faire un lieu qui n'est pas trop sombre alors qu'il est quand même en sous-sol malgré tout, avec des parois de verre en verre feuilleté qui séparent les bureaux les uns des autres. Enfin, tout a été fait pour jouer sur la transparence. On a aussi utilisé pour la première fois des poutres en verre qui soutiennent le plafond de verre au-dessus du puits de jour. Et je crois qu'à l'époque, c'était une des premières fois où on utilisait ces poutres en verre. Donc voilà, toujours essayer de préserver. Donc on a bénéficié on a un cadre très très beau.
Voilà pour le cadre. Et vous êtes équipé systématiquement de gants. Il y a des rayonnements ionisants. Enfin, oui. On est aussi dans ce cadre de laboratoire.
On est dans un cadre de laboratoire avec des mesures très précises pour le rayonnement X. C'est quand même très bien connu depuis longtemps. On n'est jamais dans la pièce, c'est télécommandé à distance. On a des dosimètres quand on part en mission, parce qu'on va aussi travailler auprès des œuvres qui ne se déplacent pas. C'est vrai pour l'ensemble des équipements ionisants. Donc, il y a quand même une surveillance et aussi la médecine du travail qui surveille tout ça. Il faut manipuler les œuvres avec beaucoup de précautions, sachant que à chaque fois qu'on manipule une œuvre, on prend un epsilon de risque. Évidemment qu'on ne prendrait pas si on le laissait accrocher sur les 6 mètres. Mais le fait de venir au laboratoire, chaque déplacement, c'est toujours un petit risque qu'il se passe quelque chose, mais il faut le contrôler, il faut juste être attentif et très concentré. Il ne faut pas être trop distrait par des gens. Enfin, moi, c'est vrai que je suis très focus quand je travaille.
On a donc des œuvres, des chefs-d'œuvre qui restent un mois minimum dans ce laboratoire. Oui. Vous, dans vos rapports d'études que vous produisez, il y a en général deux parties, Elisabeth Ravot, c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'on peut décrire justement quels sont ces éléments d'expertise que vous apportez dans ces dossiers?
Alors, comme je l'avais dit en introduction tout au début de cette émission, il y a une partie qui est le processus de création. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme toile, carton, bois, comment on a agencé, quelles sont les caractéristiques d'assemblage.
La genèse de l'œuvre.
Voilà. Après, on a des examens comme la réflectographie infrarouge qui permettent de documenter le dessin qui est fait par l'artiste avant qu'il passe à la phase de peinture. La phase de peinture, elle peut être documentée évidemment directement en regardant l'œuvre, qu'on la regarde comme ça, ou au microscope, c'est-à-dire qu'il va énormément grossir les détails jusqu'au point qu'on peut y voir les grains, la couleur des grains, mais également par plein de techniques non invasives, Alors j'insiste beaucoup sur le côté non-invasif, c'est-à-dire la politique des laboratoires en général, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible avec des techniques où on ne touche pas l'œuvre. Ce que j'appelle toucher l'œuvre, c'est parfois, après avoir fait tous ces examens, croiser des données et tout, il peut persister des questions qui se posent sur la genèse ou sur l'état de conservation, qui vont amener à se poser la question de la pertinence d'un micro-prélèvement. Alors quand je dis micro, c'est un millimètre dans la plus grande taille. Donc c'est vraiment une tête d'épingle. Mais voilà, on essaye de retarder ce moment-là et d'essayer de voir si on peut résoudre le problème par des techniques non-invasives. Donc ça, c'est important, ce terme de technique non-invasive. Et donc la deuxième partie, après la genèse de l'œuvre, c'est dans quel état est l'œuvre ? Parce qu'en fait, dans plus de la moitié des cas, c'est en préalable d'une restauration. Il faut donc pouvoir donner des éléments au restaurateur sur l'ampleur et au conservateur qui va décider aussi. Donc l'ampleur des lacunes, par exemple, qui sont les pertes de matière originale. Est-ce qu'elles touchent sur des parties sensibles de l'œuvre, comme un visage, une main, qui vont être difficiles à reconstituer si la lacune est assez grande? Est-ce que ça va être des choses dans des fonds sombres qui ont moins d'importance? Décrire l'œuvre et essayer d'évaluer son état de conservation. C'est vraiment les deux volets.
Voilà, et maintenant, quel est votre arsenal pour mener à bien cette expertise scientifique des peintures de Chevalet? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir tout au long de cette heure avec Elisabeth Raveau, spécialiste d'imagerie scientifique sur l'étude et la conservation des œuvres d'art. On vient de voir que la médecine et l'étude des œuvres d'art sont a priori très éloignées, mais qu'elles sont en réalité très proches dans leur démarche. Vous utilisez la radiographie, Elisabeth Raveau. C'est une technique qui est utilisée depuis les années 30 pour les œuvres d'art. Alors comment permet-elle d'analyser en profondeur un tableau ?
Alors la radio, effectivement, elle a été inventée par Monsieur Röntgen en 1895 et elle a été utilisée sur des tableaux dès avant la Première Guerre mondiale, hein, de manière, on le sait, par quelques publications. Il est amusant de savoir que durant la Première Guerre mondiale, les ambulances militaires étaient équipées de matériel radiologique qui consistait à radiographier les soldats qui avaient reçu des obus, hein, donc avec des fragments métalliques qui étaient facilement détectables par la radio, et que c'est dans une de ces équipes qu'il y a eu aussi, on a des témoignages postérieurs, mais pas de traces de radio elle-même, que le personnel de l'équipe aurait, à ses heures perdues, fait des radios de peinture. Donc pendant la Première Guerre, après on est passé dans les années 20, les premiers essais officiels au Louvre, et puis après en 1926-27, les choses se sont accélérées. Donc cette radio, elle existe depuis très longtemps. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce qui m'a encouragé à rester au labo, c'est que il me semblait que l'interprétation, par contre, de l'image était sous-exploitée. Donc, ça a été un travail important pour moi de répertorier ces signes, de les expliquer, puisque le fil conducteur de ce travail, ça a été de comprendre le mécanisme de formation de l'image. Parce que la radio a été longtemps considérée comme l'équivalent d'une photographie. Or, elle restitue, en fait, un état plus complexe de l'œuvre, et en particulier, à la différence de beaucoup d'autres examens que je vais vous donner, c'est une imagerie par transmission. Donc, c'est-à-dire que le rayonnement arrive d'un côté de l'œuvre et on récupère la réponse de l'autre côté. Donc, elle va traverser toutes les strates, le vernis, la couche picturale, le dessin, la préparation, le support. Et là, on va avoir une image qui accumule dans un même plan toutes les données issues de toutes ces couches. Donc, la radio, elle est simple. On l'a fait de la même manière depuis les années 30 que maintenant, 100 ans plus tard. Par contre, l'interprétation est beaucoup plus délicate puisque il va falloir réattribuer chaque morceau d'image à sa couche d'origine. Et c'est ça c'est ce travail que j'ai essayé de faire dans le livre que j'ai récemment publié.
Alors en effet, vous parlez de cette radiographie qui est considérée comme une photographie. Dans les années 30, on parle même de lanterne magique qui permet de trouver des tableaux cachés. Voilà, oui. Vous, justement, qu'est-ce que, là où vous avez prêté attention, quels sont justement ces détails longtemps ignorés que vous avez justement scrutés, contrairement à vos prédécesseurs ? Il y a la sémiologie radiologique du bois, par exemple, sur lequel vous travaillez.
Voilà. Donc, je me suis intéressée aux essences de bois, puisqu'on peut avoir des résultats très intéressants sur la nature des essences. Or, la nature de l'essence donne des informations sur la provenance, le lieu d'exécution. Les panneaux de bois italiens ne sont pas faits dans le même bois que les panneaux flamands. Et donc, déjà, avoir cette information, elle est importante pour la provenance de l'œuvre. Mais c'est aussi le débit des planches, c'est les assemblages. Pour les toiles, c'est le sens d'orientation, chaîne, trame, les coutures, et puis tous les signes qui accompagnent des modifications, des réductions ou des agrandissements de ces formats. Une sémiologie que j'ai essayé de faire vraiment très systématique. Hein, vraiment, encore une fois, c'est la méthodologie qui a été importante. Donc le support, la préparation, la couche picturale, elle fait partie des signes qui sont probablement les plus immédiats. Parce que quand vous voyez une radio sur laquelle il y a trois personnages, alors que le tableau dont il est issu n'en a que deux, sans avoir de culture particulière, vous dites il se passe quelque chose. Et je pense que c'est ça le terme. Oui, voilà, c'est ça le terme de lanterne magique. Parce qu'en fait, je pense que dans les années entre 20 et 30, quand les gens ont commencé à faire ces radios, c'était extraordinaire, finalement. On avait une image et on avait un personnage en plus, ou alors il avait un bras levé au lieu d'avoir le bras baissé, ou des choses comme ça. Donc c'est ce terme de lanterne magique que vous avez relevé, moi je l'ai trouvé extrêmement significatif du côté magique. C'est-à-dire le côté magique, on s'émerveille, mais on n'essaye pas de comprendre en fait l'image. Donc c'est ça que j'ai aussi essayé de faire, c'est comprendre comment l'image est formée, pour pouvoir, au-delà des quelques signes que j'ai pu répertorier, pouvoir s'approprier l'image, même sur des signes que j'aurais pas décrits, parce que l'important, c'est de comprendre comment l'image a été faite.
Ça permet aussi de comprendre le format originel de l'œuvre d'art, grâce aux radios aussi.
Exactement. À cet égard, j'ai eu un exemple que je garde quand même longtemps en mémoire, parce que ça a été vraiment une enquête policière, d'un petit tableau donc qui est venu, un petit tableau de Sebastiano Ricci sur bois, qui venait parce qu'il y avait un gros repeint dans un angle du tableau. Donc je fais la radio, et là je vois que déjà dans la zone du repeint, on a un joint oblique, et que la limite de la peinture sous ce joint était plutôt un peu courbe. Après je regarde un peu plus près, et là je vois que à peine visible par rapport à la composition de Ricci, je vois des lettres. Donc je relève toute une maxime latine qui était musica laborem dulce le, et puis c'était coupé par le bout du tableau. En fait, c'est la maxime complète, c'est musica laborem dulce le vanem, qui veut dire la musique adoucit les mœurs. Et donc de là, on a pu s'orienter vers un instrument de musique. Et donc l'hypothèse a été que le tableau était en fait un dessus de clavecin, ce qui m'a amené à travailler avec le musée de la musique et avec un facteur de clavecin qui, à partir de la courbure de la peinture dans l'angle coupé, a pu établir une reconstitution de l'ensemble du clavecin, qui était donc un clavecin de facture flamande. Alors que l'artiste Sebastiano Ricci est un peintre vénitien du XVIIIe siècle, mais dont on sait qu'il avait fait dans les années 1715 un trajet de Venise à l'Angleterre et probablement en passant par la France. Est-ce à cette occasion qu'il s'est vu demander de repeindre en fait ce clavecin ? C'est possible. En tout cas, maintenant, le tableau qui était présenté comme un tableau autonome, maintenant est dans les salles avec la présentation de son origine, c'est-à-dire avec la bordure dorée et la forme en fait de ce clavecin, enfin ce couvercle de clavecin qui a été tronqué probablement à la Révolution française.
Voilà, ces techniques d'enquête presque de police scientifique, c'est aussi quelque chose que vous décrivez dans votre ouvrage Radiography and Paintings. Je vous propose un extrait. La connaissance des éléments constitutifs d'une peinture de chevalet est le premier point incontournable. Tout comme le radiologue médical doit parfaitement connaître l'anatomie humaine, la physiologie et l'anatomie pathologique, celui qui désire interpréter les images radiologiques des peintures doit parfaitement connaître les structures d'une peinture et ses principales variantes ou modifications possibles. Cette parfaite connaissance doit être avant tout orientée sur les caractéristiques matérielles des éléments constitutifs d'un tableau qui vont déterminer l'aspect de l'image radiologique. Une connaissance du contexte historique et des conditions de vieillissement des matériaux utilisés est également primordiale pour ne pas se contenter de constater des images immédiatement évidentes, mais également pour rechercher des signes fins tellement discrets ou atypiques qu'ils passeraient inaperçus. Elisabeth Ravo, vous avez élargi votre cercle de compétences à d'autres techniques que vous. Qu'est-ce que vous. On vient de parler de la radiographie, oui, mais que vous permet par exemple la spectrométrie de fluorescence X, la spectrométrie à ultraviolet, l'infrarouge. Qu'est-ce que. Chaque outil, ça permet de dévoiler. C'est une partie du spectre électromagnétique qui peut être dévoilée par cette imagerie.
Voilà, chaque imagerie ou technique va exciter en fait la matière d'une manière différente. Donc les ultraviolets vont plutôt interférer sur les matériaux très en surface et de nature organique. Donc on va avoir des informations sur le vernis ou sur des repeints qui auraient été sur le vernis. Les infrarouges, au contraire, pénètrent la matière et c'est ces techniques-là qui vont nous permettre de documenter le dessin fait par l'artiste, que nous on appelle le dessin sous-jacent, parce qu'après il est recouvert par la peinture. La fluorescence X, c'est une technique d'analyse qui permet de savoir les éléments présents au point d'analyse, fer, plomb, calcium, et à partir de ces éléments, on peut remonter au pigment. Puisqu'il y a des formules, on connaît les formules des pigments. La diffraction X, elle, ce n'est pas comme la fluorescence X qui est une analyse élémentaire. Là, on est sur une analyse structurale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir différencier des pigments qui auraient des formules chimiques assez proches. Donc, on va pouvoir les différencier entre eux et aussi identifier des pigments qui sont non détectables par la fluorescence X. Je pense en particulier au lapis lazuli, qui est un très beau bleu issu d'une pierre qu'on ramenait d'Afghanistan, semi-précieuse, et qui a une signature plus spécifique sur la diffraction X. On utilise aussi de l'imagerie hyperspectrale qui va sonder en fait la réaction des matériaux par rapport à l'ensemble du spectre visible et même jusqu'à l'infrarouge. Et selon les courbes qu'on obtient, on va pouvoir identifier un pigment ou l'autre. Alors chacun de ces examens a quand même vocation à être plus performant sur certaines parties de la palette, mais c'est le croisement en fait. Et là encore une fois, moi je rejoins la méthodologie médicale. C'est pas un examen. Encore une fois, je le dis à plusieurs reprises dans mon livre, c'est pas la radio toute seule. La radio, c'est un élément. Comme en médecine, la radio est un élément parmi d'autres, et c'est le croisement des données qui fait qu'on va aller jusqu'à la palette complète, les altérations, etc. Donc il y a effectivement énormément de techniques, surtout ces dernières années. Une révolution assez récente, c'est le fait que ces analyses spectrales, grâce à la puissance informatique, maintenant, elles sont enregistrées par des petits points côte à côte, hein, linéaires, en couvrant toute l'œuvre, et en fait d'un spectre on arrive à des images chimiques, et donc ça c'est vraiment un apport extraordinaire pour l'étude des peintures, et ce sont encore une fois des techniques qui vont s'enrichir les unes les autres à condition évidemment de bien les interpréter et puis de les remettre en contexte et de connaître un petit peu les limites de chaque technique et le contexte aussi de l'étude.
Et malgré les progrès avec de ces techniques et de ces méthodologies, qu'est-ce que la radiographie ne voit pas ? Qu'est-ce qui reste caché en dépit de tout ?
Alors la radio, je dirais que Alors, elle a un avantage par rapport aux techniques dont je viens de parler, qui sont toutes très dédiées à la couche picturale. La radio, elle sera peut-être un peu moins, elle sera moins performante sur l'analyse des différents pigments. On est sur une image en noir et blanc, donc on va pas forcément différencier. En fait, le pigment qui est très important en radio, c'est le blanc de plomb, qui est un pigment utilisé depuis l'Antiquité et qui est souvent mélangé à toutes les couleurs. Donc, il va permettre de reconnaître facilement sur une radio une composition.
C'est par rapport justement au blanc de plomb, c'est-à-dire que quand on rentre dans des matières plus organiques,
oui, c'est ça,
plus minces, on peut pas. La radiographie à ce moment-là fait défaut, par exemple.
Voilà. Donc, en fait, son avantage, c'est qu'elle permet. Elle est moins performante sur la couche picturale, mais par contre, ça reste la seule imagerie par transmission. Et donc, elle est particulièrement importante pour les couches profondes, notamment le support. Donc, en fait, c'est du coup, voilà, on complète les examens ont chacun des avantages et des inconvénients. Ce qui est important, c'est de les combiner et de connaître leurs limites. C'est-à-dire, il faut les utiliser à bon escient et aussi... De la même manière qu'en radio, il faut savoir ce qu'on cherche.
Alors, quels sont les tableaux qui ont révélé des détails étonnants grâce à vos travaux, grâce à vos examens ? Restez avec vous, on y arrive.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte, penes con pincel. Famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli. Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. De San y las frutas, que pesa Monet y los pines, que pesa Manet y las flores, que pesa Seurat y los puntos, que pesa Picasso.
Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Tapies. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida. 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 Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos.
Historia dell'arte de la Sbistec en direct sur France Culture, car nous parlons des liens qui existent entre imagerie médicale et histoire de l'art en compagnie de notre invitée du jour, Elisabeth Ravo, médecin radiologue de formation, aujourd'hui ingénieure de recherche au département recherche du C2RMF dans le groupe peinture. On vient de décrire votre approche multi-interdisciplinaire particulièrement précieuse dans l'expertise scientifique des peintures de chevalet. Alors vos deux dernières grosses opérations ont été faites sur la Maesta de Chimamanda Mabué et les très riches heures du duc de Berry, très célèbre, le manuscrit illustré par 118 enluminures, c'est peut-être un des plus beaux manuscrits du Moyen-Âge. Vous avez participé à une importante campagne d'examen. Comment avez-vous dévoilé les secrets de ce manuscrit ?
Alors ça a été d'abord un privilège immense de pouvoir étudier ce manuscrit qui est d'une beauté remarquable. Ses couleurs d'une fraîcheur incroyable. Alors probablement parce que il n'est pas consulté ou très peu ouvert habituellement. Il est quand même conservé souvent coffre-fort, etc. Donc ça a été un privilège parce que l'enluminure, par définition, c'est des formats qui sont assez petits. Et c'est vrai que l'étudier avec ces techniques d'imagerie et le microscope, ça a été... Un ravissement, en tout cas moi j'y ai pris énormément de plaisir, évidemment avec aussi les objectifs liés à l'état de conservation et surtout la compréhension des étapes de création par les frères Limbourg. Donc nous avons pu donc avec toute l'équipe qui était partie prenante donc faire des dossiers d'imagerie extrêmement complets, faire pour ma part du microscope où j'ai eu l'impression que c'était un grand plongeon dans ces enluminures où je découvrais des détails que j'avais même pas vus à l'œil tellement le peintre va faire peut-être avec trois poils sur son pinceau, tous ces détails absolument fabuleux. Je parle surtout de la partie Limbourg, mais également Barthélemy Deck et Jean Colombe qui ont complété le manuscrit tout au cours du XVe siècle. Et c'est surtout cette richesse ornementale, donc lapis-lazuli autant qu'il fallait, sans aucun autre bleu, c'est le seul bleu qu'on trouve dans le tableau, avec de l'indigo, pardon. Il y a de l'indigo, mais le bleu des ciels, par exemple, du calendrier qu'on connaît tous par nos livres d'histoire, ils sont en lapis-lazuli, et c'est une véritable merveille. Alors, la grosse question que j'avais de la part des conservateurs, bon, c'était l'état de conservation, donc ça, on a vu que finalement... malgré tout, il était globalement en bon état, très bon état même, ce qui n'empêche pas qu'il y ait quelques petites choses à droite et à gauche, mais au vu de l'âge du manuscrit, de sa renommée, sûrement du nombre de personnes qui ont pu le manipuler, quand même on peut considérer qu'il est en bon état. Et l'autre question, c'était les problèmes d'attribution, puisque les frères Limbourg, donc trois frères, à qui le duc de Berry, donc frère du roi, fils de roi, avait commandé le manuscrit, sont morts en fait prématurément en laissant le manuscrit inachevé. Ils sont morts d'ailleurs quelques mois avant leur commanditaire, puisque le duc de Berry est mort six mois après. Et la question des conservateurs, c'était dans quel état, en fait, a été laissé le manuscrit. Et quand il a été repris par les autres peintres, sont-ils partis de la page blanche ou y avait-il un dessin déjà tracé par les Limbourg, maintenant recouvert par la peinture d'autres artistes, donc Barthélemy Deck ou Jean Colombe? C'était un petit peu cette question qui était en suspens. Et ça a été une aventure formidable.
Jean Colombe, qui achève le manuscrit vers 1485. Oui. Vos examens ont permis en effet de mettre en évidence les différentes techniques et les différentes palettes de tous ces artistes qui sont passés sur ce manuscrit.
Voilà, donc le dessin d'abord. C'était très intéressant de voir le dessin, puisque le dessin utilisé par les frères Limbourg est très particulier. C'est une encre ferrogallique, qui est la même d'ailleurs que celle qui est utilisée par les copistes sur le texte noir, la partie texte, alors que ses successeurs ont utilisé d'autres médiums pour dessiner. Donc déjà, il y a déjà une évolution dans le temps. Une richesse extrêmement importante du dessin, vraiment presque tout était dessiné, avec un goût pour l'ornement, surtout dans les scènes courtoises, et fréquemment quand même des petites modifications dans le placement des décors, etc. Et ce qui a été quand même très intéressant, c'est de retrouver les mêmes caractéristiques de dessin, donc qu'on peut donc clairement attribuer aussi aux frères Limbourg, sous plusieurs enluminures complétées par Barthélemy Deck, notamment dans le calendrier, et par Jean Colombe dans le calendrier et dans d'autres enluminures plus loin dans le livre. Donc c'est un travail qui n'a pas été exhaustif, puisque nous n'avons pas pu étudier toutes les enluminures. Il y en a on en a étudié à peu près la moitié. Donc il y a une part encore de non étudiée qui pourrait peut-être modifier certaines conclusions, mais voilà, on a déjà jeté quelques bases sur la réflexion.
En tout cas, un travail exhaustif que vous avez mené à bien, Elisabeth Bravo, c'est les examens des œuvres de Léonard de Vinci, parce que le musée du Louvre conserve le plus important corpus de tableaux de l'artiste, 5 chefs-d'œuvre, la Belle Ferronnière, la Vierge au Rocher, la Vierge, l'Enfant, Jésus et Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste et bien évidemment la Joconde. Sur la Joconde, vous avez révélé le cheveu rouge de sa chevelure.
Oui, alors c'est effectivement la technique dont je parlais, le mapping, enfin les cartographies qu'on fait à partir de la fluorescence X, donc qui a été développée donc par mes collègues au C2RMF, donc Thomas Caligaro, Éric Laval et d'autres, pour cartographier et localiser les pigments sur la peinture. Et on s'est aperçu qu'effectivement, les chevelures des personnages de Léonard de Vinci contenaient fréquemment du vermis 11, qui nous laisse penser que il y avait cette couleur qu'on appelle le blond vénitien, qui est un espèce de blond légèrement roux, hein, comme ça, et qu'on voit particulièrement bien dans la Joconde, puisqu'il y a un côté, les deux mèches qui sortent en fait du voile qui retient ses cheveux à l'arrière. Il y a deux mèches, et il y en a une qui est éclairée, riche en vermillon, et l'autre qui n'est pas éclairée, qui n'en a pas. Et c'est vrai que cette technique a été vraiment un apport majeur, et je remercie toute l'équipe du C2RMF qui a développé cet instrument, parce que c'est vraiment une étape supplémentaire dans cette enquête sur la genèse et l'état de conservation encore des œuvres.
Mais on a aussi, grâce à vos travaux, accès quand même à un fonds documentaire incroyable sur ces cinq œuvres de Léonard de Vinci. Qu'est-ce que ça nous permet aussi de comprendre sur la progression de l'artiste au fil du temps ?
Alors, ce qui me frappe sur ces cinq œuvres, j'ai pas pu étudier aussi. Je connais les résultats des autres tableaux à travers les publications qu'en ont fait les musées correspondants. Mais sur les cinq que j'ai étudiés, ce qui me frappe, c'est une évolution vers une économie de moyens qui va de pair avec une maîtrise de plus en plus grande, en fait, de la technique. Il utilise de moins en moins de matière et il utilise de plus en plus les phénomènes optiques auxquels il tenait beaucoup, dont il a beaucoup parlé dans ses manuscrits, les phénomènes optiques de transparence ou de réflexion de la couleur. Donc il utilise beaucoup le fond blanc, la préparation blanche, pour jouer sur ces transparences. Et la radio est intéressante parce que comme c'est une imagerie par transmission, elle donne aussi indirectement, dans des conditions équivalentes, pour comparer les tableaux entre eux, une idée sur la quantité de matière. Et en fait, plus le temps passe, sur le Saint-Jean-Baptiste, qui est pour l'instant le dernier de la collection, on a des images de plus en plus évanescentes qui laissent penser que, voilà, il ne faisait que ce qui était nécessaire et suffisant. Et pour moi, ça trahit une maîtrise absolument extraordinaire de la matière.
Voilà ce que révèle l'imagerie et ce que révèle également ces travaux-là, c'est que la dernière touche de peinture repérée sur la Joconde date de 1519, l'année de la mort de Vinci. Alors quel est l'avenir de la médecine radiodiagnostique au service des œuvres d'art ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on poursuit notre grand entretien avec Elisabeth Raveau, dont le travail permet de restaurer et de mieux comprendre les œuvres des musées de France. Elisabeth Raveau, dans les expos, dans les catalogues, on voit de plus en plus d'imageries scientifiques qui sont présentées aux côtés des œuvres d'art. Est-ce qu'il y a un intérêt grandissant pour l'aspect scientifique justement de l'histoire de l'art ?
Alors j'en suis absolument persuadée. Je pense que le public a envie de savoir. Au-delà de l'aspect historique, il est intéressé par la manière dont les tableaux sont faits, ils sont réalisés. Et c'est vrai que Vincent Delieuvin, qui était commissaire de l'exposition Léonard de Vinci, a eu cette envie de reproduire les réflectographies infrarouges de tous les tableaux pour lesquels c'était disponible. Donc les nôtres, mais oui, c'était surtout les nôtres, ou peut-être qu'il y en a eu de l'étranger aussi. Et finalement, cette confrontation, je pense que dans l'exposition, et pas uniquement contingentée en allant au labo ou en lisant une notice, mais vraiment là, explicitée côte à côte avec l'œuvre, je pense qu'elle elle a plu au public. Et en tout cas, moi, j'ai eu des retours de connaissances personnelles qui étaient ravis de cette initiative. Et j'espère qu'elle se renouvellera, parce que je suis vraiment persuadée que ça intéresse le public.
Vous disiez dans une interview, on l'a évoqué rapidement il y a quelques instants, vous disiez que plonger comme ça dans les détails des enluminures des très rigeurs du duc de Berry, ça vous avait procuré un plaisir fou. Est-ce que c'est quelque chose, un plaisir que vous arriverez à définir?
Je trouve que c'est la merveille, c'est la merveille de la sophistication. Je suis assez émue quand je vois des œuvres où le peintre s'est donné du mal pour des détails qui, de toute façon, sont... Alors, les enluminures, on peut dire, on se penche un peu avec une loupe, on peut les voir, mais si on les regarde comme ça, on ne les verra pas. Je pense aussi à un tableau de la prédelle de San Zeno, je me rappelle plus du peintre, c'est pas bien. Bref, sur ce panneau était peinte dans la Seine une petite ruche et devant il y avait des petites abeilles qui étaient juste des petits points d'or et je me dis mais qui d'autre que le peintre pouvait voir les abeilles parce que le retable il est vu par les fidèles à 20 mètres de distance. Donc en fait oui, ce goût de la perfection. Au-delà de ce qui est perçu par le spectateur, je trouve ça très émouvant. Parce que je pense que les gens ne ménageaient pas leur peine pour essayer de faire vraiment le mieux qu'ils pouvaient. Enfin, ils auraient pu faire moins précis et ça n'aurait pas forcément changé beaucoup la perception. Et ben non, en fait, on voit tous ces détails, je trouve ça très, très touchant et c'est quand même des heures passées avec une minutie. Je vous dis, même moi au microscope, je me dis, mais comment ont-ils fait? Et donc voilà, je suis émue par ce savoir-faire, ces effets, et en même temps, bien sûr, aussi des gens qui arrivent à peindre de manière très synthétique, comme le Guido Reni, là, qu'on est en train d'étudier, un fa presto qui est extraordinaire, une vivacité dans l'exécution qui sont tout aussi magistrales, hein, les deux sont intéressants.
On a parlé de la finesse des analyses qui se précisent, qui s'affinent au cours du temps. Impossible de ne pas penser à l'IA parmi les outils à venir. Comment vous envisagez cet avenir de la restauration à l'aide de l'IA, à l'aide de cet outil-là?
Alors je pense que toutes les parties de la société sont confrontées actuellement aux capacités, aux possibilités de l'IA. Dans le domaine médical, on l'est particulièrement. Je pense par exemple à la relecture des mammographies qui, dans des études, ont montré qu'il y avait une fiabilité plus grande de l'IA par rapport à un œil humain qui est toujours susceptible d'être fatigué ce jour-là. Enfin bon, voilà, même si on a des très bons praticiens. Donc dans le domaine de la culture, ben oui aussi, donc on y réfléchit, ça fait partie des objectifs auxquels on pense. Ce que je constate, c'est que si je compare le nombre de données que j'avais quand j'ai commencé il y a 30 ans et la quantité de données que j'ai maintenant, elle a été multipliée largement par 1000. C'est-à-dire qu'on a une quantité de données qui est tellement énorme qu'effectivement l'IA nous sera certainement d'aide, si vous voulez, pour automatiser, par exemple, des identifications de pigments ou de molécules ou d'éléments sur des spectres. Là, nous, actuellement, on le fait manuellement, en se basant sur des bases de données, etc. Donc, je pense qu'il y a toute une partie qui pourra bénéficier de ce tri de millions de terras de données qu'on récupère maintenant parce que les examens se multiplient, que c'était plus des images, enfin c'est parfois des images de plusieurs terras, oui, donc on aura besoin de ça. Après, c'est difficile de savoir l'avenir, en fait, on s'y prépare. Je pense que ce qu'il faut, c'est y réfléchir pour que ça reste un outil et qu'on ne le subisse pas.
Et on voit bien en effet qu'il n'y a pas de raison que le diagnostic d'œuvre d'art échappe aussi, ce domaine échappe aussi à l'IA. Merci, mais un grand merci Elisabeth Ravo. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume et merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on quitte le Louvre, les musées de France.
Merci à vous.
Merci. Direction Mars, avec la découverte d'une roche aux structures étranges. C'est la chronique avec science. « Existe-t-il de potentielles traces de vie sur Mars? C'est la mission de Persévérance. Cela fait 4 ans que ce rover arpente le sol martien. Son objectif est de collecter et d'analyser de la roche pour comprendre si Mars a pu un jour héberger de la vie telle qu'on la connaît. Alors, pour remplir cette mission, rien n'est laissé au hasard, évidemment, et Persévérance a été envoyée dans une zone bien particulière nommée le cratère de G0. Erwin De Hoek est maître de conférence au laboratoire de géologie de l'Université Lyon 1.
C'est un cratère d'impact, donc c'est-à-dire c'est un cratère qui s'est formé par l'impact d'une météorite à la surface de Mars. Donc des cratères d'impact, il y en a énormément à la surface de Mars, et comme on peut aussi en observer à la surface de la Lune, par exemple. C'est pas un cratère particulièrement gros, il fait 45 km de diamètre. Il y en a des beaucoup plus petits, il y en a des beaucoup plus gros aussi. Par exemple, il est 3 fois plus petit que le cratère dans lequel se trouve l'autre rover qui est en activité aujourd'hui sur Mars, qui est le rover Curiosity. Et ce cratère G0, en fait, il s'est formé il y a à peu près 3,8 à 3,9 milliards d'années. Donc c'est une structure très ancienne. Et une des principales raisons pour lesquelles on s'est intéressé à ce cratère et pour lesquels on a décidé d'y envoyer Persévérance, c'est que on a des indices morphologiques que ce cratère, à un moment donné, il a accueilli un lac. Et ça, on le sait parce que il y a en fait 2 vallées qui percent ce qu'on appelle le rempart du cratère. Donc, ça nous indique que à un moment donné, non seulement il y a eu un lac dans ce cratère, mais ce lac a été très important parce qu'il a débordé en fait du cratère, ce qui a permis la formation de cette vallée d'aval.
Ce que cherche Persévérance, ce sont des sédiments un peu particuliers qu'on appelle des mudstones, de la boue pétrifiée, idéale donc quand on cherche des traces de vie. C'est ainsi qu'un gros caillou d'un mètre sur 60 cm a attiré l'œil du rover le 21 juillet 2024 et il fait l'objet d'une toute nouvelle étude parue dans Nature. Et ce qui a capté l'attention des scientifiques, c'est que la roche n'est pas uniforme. Sur les images à haute résolution, on observe 2 types de structures. D'un côté, des petites billes de 100 à 200 microns et de l'autre, au sein de la même roche, des taches de léopard, des formes plus grosses, d'un millimètre, décolorées en leur centre et entourées d'un liseré plus sombre. Grâce à ces instruments embarqués, Pixel et Sherlock, Persévérance a pu analyser la composition chimique et minéralogique de la roche. Et résultat, les taches de léopard contiennent du fer ferreux, alors que la roche autour contient du fer ferrique, ainsi que de la matière organique. Cela signifie qu'il y a eu là une réaction d'oxydoréduction. Du fer ferrique est devenu du fer ferreux en abandonnant de l'oxygène qui a été capté par les molécules organiques. Ces réactions sont courantes dans le vivant et pour le fer, on sait même qu'elles peuvent avoir lieu spontanément, sans aide extérieure et à basse température. En revanche, ce n'est pas possible pour le soufre et c'est ce qui marque une potentielle signature biologique.
Là où on a été assez intrigué, c'est que on a un deuxième élément chimique, le soufre, qui est également présent sous forme réduite dans ces structures, en particulier dans les taches de léopard. Et lui, pour perdre son oxygène, c'est une réaction chimique, en fait, qui est très lente à basse température, s'il n'y a pas d'activité biologique. Et en fait, un des moyens de faire cette réaction à basse température, c'est justement d'avoir une activité microbienne. En fait, à ce moment-là, le soufre réduit est un sous-produit de l'activité microbienne. Donc c'est là qu'on a un lien potentiel, et le terme potentiel est ici très important, avec une activité microbienne, mais on n'a pas observé directement de structure qui indiquerait la présence de micro-organismes. Ce qu'on a observé, c'est les vestiges d'une réaction chimique qui a pu être induite par une activité métabolique.
Pourrait-on expliquer la présence de ce soufre réduit par un autre moyen? La réponse est oui. Avec une température supérieure à 120 degrés Celsius, cette réaction peut avoir lieu spontanément et donc sans vie. Or, quand on regarde la roche autour de ses taches, eh bien, on ne trouve aucun indice, notamment minéralogique, qui laisse penser que ce caillou a été porté à haute température. Mais il faut souligner les limites de cette analyse. Déjà, chaque centimètre carré n'a pas pu être scruté. Les instruments de Persévérance ne le permettent pas, tout comme ils n'ont pas la même résolution et la même précision que les outils dont on dispose sur Terre. C'est pourquoi le rover a sélectionné un échantillon qui pourrait être candidat pour la mission Mars Sample Return, qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de rapporter certains morceaux pour une analyse approfondie dans les laboratoires terrestres. Seulement, l'administration Trump est en train de réduire drastiquement le budget de la NASA et vise particulièrement cette mission dont les coûts ont explosé. Les négociations
excavations sont encore en cours pour la prochaine année fiscale. Reste à savoir si cette découverte et la communication autour d'elle pourraient peser dans la balance.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et grande nouveauté de cette rentrée à France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité, philo, éco, histoire, pop culture, gastronomie et science, bien sûr, en 3 minutes 30. Du lundi au dimanche, les meilleurs experts tirent leur fil d'Ariane pour mettre notre monde en perspective. Et tout de suite, le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains. Aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas tous la même couleur de peau ?
Pourquoi nous n'avons pas tous la même couleur de peau ? Vous avez tous remarqué que sur la planète du beige clair au marron foncé, il existe une infinité de couleurs de peau. Certaines ont des nuances rouges ou rosées, d'autres sont un peu plus jaunes, d'autres encore bleutées. Une diversité que l'on doit à plusieurs pigments, notamment la mélanine qui donne une couleur de peau foncée, le mélanine qui donne des nuances de rouge. Alors ce pigment de mélanine est synthétisé par la peau grâce à l'action de plusieurs protéines qui sont codées par des gènes, des bouts d'ADN. Un gène est un bout d'ADN qui est lu pour produire des protéines. Selon les lettres qui forment cet ADN, différentes formes de protéines seront produites. Cet ADN varie selon les personnes, c'est ce qui participe au spectre de couleurs de peau que l'on observe. Bon, bien sûr, il y a aussi le bronzage et l'alimentation qui participent à ces nuances. Comme nous recevons la moitié de notre ADN de chacun de nos deux parents, la couleur de peau est transmise aux enfants par leurs parents biologiques. Mais des variations peuvent apparaître entre frères et sœurs, parents et enfants. Des combinaisons génétiques qui donnent des nuances de peau différentes dans une même famille. Si maintenant l'humanité affiche une belle diversité de nuances et de couleurs, cette variété de couleurs était moins présente à la préhistoire. En fait, nous, Homo sapiens, nous venons tous d'Afrique. Et la couleur de peau était plutôt foncée grâce à la mélanine, même s'il existait des variations, du marron foncé au marron plus clair. En effet, dans les régions très ensoleillées, la couleur de peau foncée est mieux adaptée car elle permet de se protéger des effets néfastes du soleil, comme des cancers, mais surtout la destruction de certaines hormones, les folates, qui sont indispensables au fœtus. À l'inverse, une couleur de peau plus claire permet, dans des environnements moins ensoleillés, de fabriquer suffisamment de vitamine D qui est naturellement produite par la peau sous l'effet du soleil. Or, cette vitamine D est indispensable à la croissance. Mais s'il y a peu de soleil, sa synthèse est limitée par la mélanine. Ainsi, dans les régions du monde faiblement exposées au soleil, en l'absence de nourriture riche en vitamine D, une peau trop foncée pouvait être un désavantage. Alors on sait maintenant comment la couleur de peau de celles et ceux qui ont quitté le continent africain et qui sont allés vers le nord a changé au fil du temps. Les premiers Européens venus d'Afrique étaient de couleur de peau foncée. Et ils le restent pendant plusieurs dizaines de milliers d'années parce que leur alimentation était suffisamment riche en vitamine D pour que la couleur foncée ne soit pas un désavantage. Ce sont donc des individus de couleur de peau foncée qui ont peint les grottes de Lascaux. Puis, suite à un changement d'alimentation devenu moins riche en vitamine D, dans cet environnement peu ensoleillé, des modifications génétiques ont permis de nouvelles adaptations. Les humains ont produit moins de mélanine, leur peau est devenue plus claire. Un processus qui n'a pris que quelques milliers d'années et c'est court dans l'échelle de l'évolution. Nina Marchi, chercheuse au Musée de l'Homme que je cite, le précise bien. Sur un plan évolutif, les nuances de couleur de peau sont des adaptations au milieu dans lesquels vivaient nos ancêtres. Alors je vous le rappelle, s'ils ont la peau noire, jaune, rouge ou blanche, les humains ont tous la même origine et sont de la même espèce. Seuls quelques-uns de leurs gènes diffèrent et c'est le résultat de l'évolution.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.